Votre invité à présent, Patricia Martin, est l'ancien directeur de l'Alliance française d'Irkoutsk, Johann Barbereau, à l'occasion de la sortie de son livre « Dans les geôles de Sibérie » paru aux éditions Stock, un livre qui raconte le complot qui vous a envoyé en prison russe en 2015 et votre évasion 2 ans plus tard.
Oui, c'est assez rocambolesque. Johann Barbereau, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été combien de temps directeur de l'Alliance française dans une ville donc qui est en Sibérie orientale, hein, c'est ça?
3 ans avant l'arrestation, et puis ensuite j'ai conservé mes fonctions quelques temps aussi alors que j'étais en prison, mais disons libre 3 ans réellement.
Donc vous avez été arrêté en 2015, c'était un 11 février. On voit d'ailleurs il y a une vidéo hein, qu'on peut voir de cette arrestation. Des hommes tout en noir, cagoulés, arrivent chez vous un matin.
Oui. Et m'arrête violemment, me passe les menottes, me met une cagoule noire sur la tête, et puis là je suis emmené dans un endroit inconnu, battu, je subis des traitements qui s'apparentent à la torture, et on veut me faire parler.
Tout ça sous les yeux de votre femme et de votre petite fille qui a 5 ans à ce moment-là.
L'arrestation, oui, c'est ça.
Donc vous avez été violenté, tabassé, c'était la prison?
Alors non, à ce moment-là, c'est tout à fait hors du droit, je sais même pas où je suis, j'ai cette cagoule noire sur la tête, et là, j'ai les services sur le dos, je le comprends assez vite, le FSB, hein, le successeur du KGB, qui veulent me faire parler, je comprends pas ce qu'ils veulent.
Des techniques d'interrogatoire, on va dire, assez musclées.
Voilà, c'est ça, bah, qui consiste à frapper, sans laisser de traces physiques, mais en ayant un maximum d'impact mental.
Mais donc après, vous allez en prison?
Je suis jeté en prison et rapidement, on va m'accuser d'avoir diffusé des images pédopornographiques sur Internet.
Et qui concernent votre fille?
Oui,
pas seulement.
Oui. Enfin, c'est surtout des images qui ont été trafiquées, mises dans un autre contexte. Ce sont des images tout à fait anodines. Hein. Mais je suis victime de ce qu'on appelle un compromat. Donc, un compromat, c'est une affaire montée contre quelqu'un pour détruire sa réputation, on peut dire. Alors, il y en a de tout type, mais moi, celui que je subis, évidemment, c'est le pire, le définitif, puisque rapidement, on va m'accuser du viol de ma propre fille. Donc, quand c'est celui-ci qu'on a sur le dos, c'est qu'on veut se débarrasser de vous et définitivement.
Comment est-ce que vous pouvez expliquer cette espèce de complot contre vous? Qu'est-ce qui peut, selon vous,
Alors j'essaye d'en donner des pistes dans le livre, et puis d'ailleurs le lecteur a le droit d'avoir les siennes, parce que ça reste ouvert. Alors moi j'ai quand même une petite idée sur la question. Alors il faut reprendre le contexte, nous sommes en 2015.
C'est-à-dire que les relations entre la France et la Russie sont pas vraiment très bonnes.
Voilà, juste après l'annexion de la Crimée, la France refuse de vendre les navires Mistral. Alors moi je suis loin hein, de ces enjeux diplomatiques, à 5000 km de Moscou, mais à Irkoutsk il se trouve qu'il y a un chef du FSB qui est un serviteur zélé du pouvoir et qui se dit que là il a peut-être quelque chose à faire pour faire avancer sa carrière.
Il va se payer un Français pour faire plaisir à Poutine?
Voilà, parce que je suis trop proche du maire de la ville qui est un maire...
opposant au régime.
Voilà, et c'est assez rare, c'est même très rare dans la Russie poutinienne. Et puis je suis en phase de séparation avec ma femme
qui est russe,
et tout ça mis ensemble ainsi que quelques autres éléments qu'il est un peu long à raconter, mais encore une fois je renvoie vers le livre. Tout ça mis ensemble fait que ce serviteur zélé décide de lancer cette affaire complètement hasardeuse contre moi.
Alors quand je disais que le livre et l'histoire est rocambolesque, c'est que donc vous avez raconté la prison, l'hôpital psychiatrique, vous avez été placé ensuite en résidence surveillée, et puis vous vous enfuyez une première fois d'une manière assez incroyable pour arriver à Moscou, en BlaBlaCar, c'est ça?
C'est ça. J'ai passé 1 an à me préparer. J'ai mis toutes mes forces intellectuelles dans la préparation de cette évasion. Donc j'envoie un téléphone, celui qui est pisté et observé en direction de la Mongolie, qui est toute proche. Ce serait le plus logique hein, si je voulais m'enfuir. Et moi, je fais ce qui n'est pas logique. Peut-être un peu plus compliqué, mais finalement personne n'ira me chercher dans cette direction. Je vais à l'ouest. Donc je franchis, je traverse toute la Sibérie.
On vous reconnaît pas, avec vous
voilà,
utilisez du coton, de silicone.
Je suis grimé sous fausse identité et je deviens Landoff. Dans le livre, ces moments-là, je les écris à la troisième personne.
Oui, pourquoi?
Et ce n'est pas un artifice, ça m'est venu tout à fait naturellement dans l'écriture, parce que c'est comme ça que j'ai vécu ce moment-là. J'étais tout à fait hors de moi, je devenais un personnage, je m'observais, je me regardais en fait écrire le roman qui mettait en scène Landoff. Et je vais vous faire une petite confession, je l'ai pas dit encore jusqu'ici. Ce livre est pétri de références à la littérature russe, et Landoff, c'est un anagramme de Voland. Voland, dans Le Maître et Marguerite, c'est le diable.
Et après, donc, vous arrivez à l'ambassade de France de Moscou, vous y êtes accueilli. Vous vous qualifiez vous-même d'un Platon en robe de chambre à l'ivresse paresseuse. Vous voyez de temps en temps l'ambassadeur, hein, vous prenez de temps en temps un café avec lui. Et vous côtoyez les diplomates de l'ambassade ?
Ah non, parce qu'il y a très peu de personnes qui savent au début que je suis là. Je vois un consul qui vient de temps en temps me rendre visite, voir si je deviens pas complètement fou, et c'est à peu près tout. Ouais.
Mais le Quai d'Orsay est au courant ?
Oui, bien sûr. Alors là, à ce moment-là,
c'est Jean-Marc Ayrault, hein, qui était.
Oui, alors ça a évolué pendant l'affaire, mais c'est lui qui était là essentiellement. Oui, bien sûr. Alors à ce moment-là, des négociations sont ouvertes entre la France et la Russie, et là, on est en scénario guerre froide. Hein, il s'agit de m'échanger.
Oui. Donc, il y a des préparatifs d'exfiltration.
Alors, il y a des tractations. Il y a des tractations pour m'échanger contre quelqu'un qui aurait des problèmes, qui a des problèmes visiblement en France, je ne sais pas qui. Mais finalement, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais recevoir la visite de deux agents de la DGSE. Il est prévu à ce moment-là, cette fois-ci, de m'exfiltrer, alors sans l'accord des Russes, et de prendre quelques risques pour me sortir de là. Mais ça n'arrivera jamais. Les élections présidentielles arrivent. Donc Emmanuel Macron est élu. Je suppose que c'est lui qui décide d'arrêter l'opération. Et là, je vais me retrouver dans ce qui me pend au nez, en fait, c'est de me retrouver dans la situation d'un Julian Assange. C'est-à-dire, ma situation va être révélée publiquement. À ce moment-là, je n'aurai plus aucune voie de sortie. Les Russes vont faire le siège de l'ambassade. Ils l'ont prévenu, hein. On négocie tant que la situation n'est pas publique. On négocie secrètement. Et le jour où les médias en parlent, on fera le siège de l'ambassade.
Alors, les médias, justement, il y a Envoyé spécial qui s'intéresse à vous. Il y a aussi le journal Le Monde. Et vous décidez de vous enfuir à nouveau. Et là, on est en novembre 2017, par des amis russes.
Oui, c'est une amie russe en particulier va m'aider à m'approcher de la frontière. Et dans ce livre, je l'ai dit, mais je le répète, les véritables héros, ce sont eux, ces amis russes qui m'ont aidé à m'échapper, alors qu'eux n'avaient absolument rien à gagner. Ils m'ont aidé au nom de l'amitié. Et c'est ce geste beau. J'essaye de dresser le portrait de ces amis russes. Ça vient compenser un peu les violences et entrer en contraste avec les violences des chapitres sur la prison et l'hôpital psychiatrique.
Aujourd'hui, vous êtes dans le viseur d'Interpol. Vous êtes considéré comme un fugitif. Vous vivez à Douarnenez depuis 2 ans. Vous voyez de temps en temps votre fille ?
Oui, bien sûr. J'ai reconstitué des relations complètement avec ma fille. Je la vois et je suis redevenu un père.
Et vous avez entamé des procédures donc judiciaires contre l'État russe devant la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi contre l'État français devant la justice administrative. François Villon vous a aidé parfois ?
Oui, j'en parle dans le livre. Alors il y a beaucoup de, il y a différents poèmes qui m'ont aidé, mais notamment celui-ci. Oui, c'est le Villon. Pour moi, c'est le grand poème de la fraternité. Alors vous vouliez que je vous en dise.
Oui, mais pas beaucoup, parce qu'on va se faire gronder, on va être en retard.
Tant pis, je vous le fais en entier.
Ah non.
Alors je vous fais frères humains qui après nous vivez. N'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avait Dieu, en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez si attachés, 5, 6, quand de la chair, que trop avons nourri, elle est piéça, dévorée, et pourriez nous les os, devenons cendre et poudre. De notre mal, personne ne s'en rit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre.
Yann Barbereau, merci.
Il est 8 heures,
dans les geôles de Sibérie, est publié chez Stock. Merci à vous d'être venu ce matin.
Merci.